Amen, alléluia. Béni soit Dieu. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, c'est toi qui poses ta bonne main sur ta parole encore, hein, et qui fait ton œuvre en notre faveur, Seigneur, dans chacune de nos âmes, dans chacune de nos vies. Te glorifions, notre Dieu, pour ton secours et ton soutien. Amen, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je vous invite à ouvrir l'Écriture sainte, la parole de Dieu, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5 et au verset 1er. Nous allons parler d'un événement dont nous avons parlé déjà, mais sur lequel il est bon de revenir parce qu'il a une importance toute particulière aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous allons pouvoir le vérifier. Deux Rois, chapitre 5, verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre !» Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre ?» Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va !» et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi, et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, « permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Élisée lui dit, « Va en paix. Amen. » Et maintenant, nous lisons encore, sans perdre ce texte, sans perdre la page, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, verset 27, ce que dit le Seigneur Jésus. « Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. » Alors nous croyons en un Dieu vivant, un Dieu grand, un Dieu capable d'opérer des miracles, et désireux d'accomplir des miracles. Et nous croyons que ce même genre de miracle qui est décrit ici, Dieu est encore capable de l'accomplir aujourd'hui. Amen. Et c'est pourquoi un texte comme celui-là est particulièrement réjouissant pour tout vrai croyant. Mais je dirais que ce qui est particulièrement merveilleux, c'est qu'il s'agit d'un miracle que j'oserais appeler un miracle complet. Un miracle complet, c'est-à-dire un miracle qui touche l'homme tout entier. C'est-à-dire le corps a été guéri admirablement, miraculeusement, l'âme a été bouleversée à salut, l'esprit a été sauvé et a été amené à la vie de Dieu. Et c'est cette sorte de miracle-là que Dieu veut voir se réaliser et qu'il veut spécialement approuver. Vous savez, on pourrait de ce point de vue-là dire qu'il y a des miracles qui sont incomplets. Rappelez-vous, les 10 lépreux qui ont été guéris par le Seigneur, dont un seul est revenu pour le remercier pour être sauvé. Les 9 autres, je pourrais dire que c'était des miracles incomplets de ce point de vue-là. Ou les 2 aveugles guéris, auxquels Jésus avait ordonné de ne pas faire de publicité dans leur guérison, et eux, dès qu'ils étaient partis, n'en ont fait qu'à leur tête, voyez-vous. Ou alors, vous avez ce passage global que vous trouvez dans Jean chapitre 12, verset 37, où il est écrit « Malgré tant de miracles qu'il avait faits au milieu d'eux, ils ne croyaient point. » Un constat, hélas, trop général. Et Dieu soit béni, il y a aussi d'autres miracles complets qui nous sont rapportés. La guérison de l'aveugle Bartimée, qui non seulement a été guéri, mais qui après a suivi Jésus dans le chemin. Alléluia. Ou bien la conversion de Zachée le percepteur, qui a été un très grand miracle, délivré de l'amour de l'argent. Ça, c'est un prodige, ça. Et pour se convertir au Seigneur et le suivre. Et puis, vous avez eu la délivrance du démoniaque de Gadara. Là aussi, un grand nombre de démons étaient dans cet homme. Et nous voyons qu'il a non seulement été délivré, mais combien il s'est assis au pied de Jésus et combien il a suivi Jésus par la suite. La guérison de l'aveugle-né, dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Là aussi, voyez un homme qui est guéri et voyez ensuite le chemin excellent qu'il suit malgré les difficultés pour arriver au salut. La délivrance de Marie de Magdala, de laquelle Jésus avait chassé 7 démons. Et qui elle aussi a été la première auquel le Seigneur s'est révélé comme ressuscité, et encore d'autres, et encore d'autres. Et ce à quoi nous aspirons, eh bien ce sont autant que possible des miracles complets, des miracles de guérison, d'exaucement, de soulagement, de salut, de conversion, de pleine bénédiction de Dieu. Amen. J'ai eu l'occasion de voir devant mes yeux des miracles complets. Alors disons tout d'abord, évidemment, ne perdons jamais cela de vue, que toute vraie conversion, toute nouvelle naissance authentique est un merveilleux miracle du Seigneur. Quand quelqu'un est radicalement changé, métamorphosé par la puissance de Dieu, quand il passe véritablement de la mort à la vie, lorsqu'il passe de la puissance de Satan à Dieu, qu'il arrête de vivre centré sur lui-même pour se tourner vers Dieu, se tourner vers les autres, qu'il arrête par exemple d'aimer l'argent ou les plaisirs du monde ou la convoitise ou l'orgueil de la vie pour aimer Dieu, aimer les choses de Dieu et le royaume des cieux, que ses désirs profonds, ses désirs primordiaux ne sont plus pour ses propres intérêts en premier, mais pour la gloire de Dieu, et qu'ainsi il ne vit plus dans le péché, il ne supporte plus le péché dans sa propre vie, il est délivré du péché, pourquoi ? Parce qu'il aime Dieu, sa parole et le Seigneur Jésus-Christ. Donc, oui, ce sont là les plus beaux des miracles, ce sont les plus grands et les plus éternels des miracles. Et certains se font d'un seul coup, c'est vrai, ou du moins ce qu'on en voit, d'une façon radicale, spectaculaire pour leur entourage. Et puis pour d'autres, c'est plus progressif, surtout pour ceux qui ont vécu dans un contexte chrétien depuis leur jeunesse. Mais malgré tout, même pour eux, il y a quand même une ligne de partage quelque part, il y a un point de basculement qui s'opère lorsque ce bien-aimé se donne enfin, réellement, et qui donne réellement, profondément son cœur à Dieu. Amen. Alors Dieu accompagne cela souvent de merveilleux miracles de guérison, de délivrance, de secours prodigieux d'en haut, et c'est l'ensemble de tout cela qu'on peut appeler des miracles complets, voyez-vous, en tout cas de façon dont on en parle ce matin. Pardon. Et c'est un grand sujet d'émerveillement, c'est un grand sujet de joie, d'encouragement dans la foi pour tout serviteur de Dieu, pour tous ceux qui aiment le royaume de Dieu et l'œuvre de Dieu Et en vérité, si les anges se réjouissent chaque fois qu'un pécheur se repent réellement à salut, à combien plus forte raison ceux qui ont à cœur les intérêts de Jésus-Christ font-ils de même ici-bas ? Amen. Et je pourrais citer des noms de personnes dans lesquelles j'ai vu cela, et je vois cela, et puis c'est pour moi toujours un très grand encouragement, toujours un puissant soutien. On pourrait citer bien des exemples de cela. Dieu accomplit encore des miracles complets, et il veut encore le faire. Amen. Et si nous méditons notre texte aujourd'hui, c'est pour y trouver justement tous les éléments nécessaires pour qu'un tel miracle complet puisse se réaliser dans la vie de chacun de nous, hein, et que ça puisse se produire, si c'est encore pas fait, que ça puisse se produire même aujourd'hui, aujourd'hui même. Et nous pourrons développer trois points principaux. Nous parlerons des choses qui ont rendu possible la conversion et la guérison de Naaman, hein, premier, on verra ça, il y a sept choses. Ensuite, vous avez les choses qu'il a fallu qu'il abandonne pour que sa conversion et sa guérison s'accomplissent, parce que si on veut que Dieu agisse, si on veut que Dieu nous donne des choses, des fois Dieu nous demande d'abandonner des choses d'abord, hein, parce que c'est nécessaire, sinon ça fait un blocage pour que lui, pour l'empêcher d'agir. Et puis nous pourrons voir enfin en troisième, Dieu voulant, les choses auxquelles on discerne qu'il est véritablement converti, véritablement changé, véritablement né de nouveau. Alors donc, parlons en premier des choses qui ont rendu possible la conversion et la guérison de Naaman. Alors la première, ça a été le témoignage de cette petite jeune fille remplie de foi. Ah, le témoignage, hein. Elle était remplie d'assurance, elle était remplie d'une confiance inébranlable, et cette conviction a été contagieuse, hein, dans cette situation. Elle était contagieuse parce que cette conviction était totale. Elle a été remplie aussi d'amour et de pitié, alors qu'elle aurait pu, je dirais, humainement, être pleine de ressentiment à cause de ce qu'on lui avait fait subir, hein, parce qu'elle était quand même, elle avait été enlevée, est-il marqué, elle avait été réduite en esclavage, elle aurait pu être remplie d'amertume, hein, donc je dirais que, voilà, la réalité de vie d'une croyante authentique se voit là, dans ce témoignage qui est d'un grand prix devant Dieu. Et là aussi, nous voyons que combien il est important aussi que nous puissions avoir, en tant que croyants, un témoignage d'amour et de foi. Amen. C'est une première chose importante. Ensuite, la deuxième chose importante, c'est l'acceptation du témoignage de cette jeune fille. Hein, donc, c'est-à-dire que Naaman et sa femme, pour commencer, ont considéré ce témoignage avec sérieux. Ils y ont réfléchi, ils ont examiné les choses. Ils ont essayé d'avoir le jugement le plus objectif possible. Ils ne l'ont pas rejeté a priori sous prétexte qu'ils n'avaient jamais rien vu de semblable. Vous savez, il y a bien des gens, par préjugé, hélas, ils rejettent les choses. Hein. Comme cela, on leur parle d'un témoignage, on leur parle de Dieu, des choses de Dieu. Ah, mais ça n'existe pas, parce qu'ils ne l'ont jamais expérimenté, alors ça n'existe pas. Hein. Voilà, trop de gens, c'est comme ça. Mais eux, ils ont considéré, ben, il n'y a que trois possibilités pour un témoignage. Soit elle était menteuse. Alors, ils voyaient qu'elle n'était pas menteuse. Soit elle était folle. Ah, ils ont bien vu qu'elle n'était pas folle. Hein, elle était là. Ou alors, elle était sincère. Voilà. Ou alors, elle était sincère. Donc, si elle était sincère, eh bien, ça veut dire qu'il pouvait y avoir peut-être une part de vérité dans ce qu'elle disait. Et peut-être même qu'elle ne se trompe pas. Hein. Et je voudrais là insister, rappeler à tous les croyants en particulier, insister sur la valeur d'un témoignage, la valeur de votre propre témoignage. Hein. Donc, vous savez, dans le cadre judiciaire, devant les tribunaux, on attache la plus grande valeur à un témoignage. Et parfois, sur la foi d'un simple témoignage, vous avez des rendus de jugement extrêmement et considérables qui sont opérés. Alors bien sûr, quand il est ainsi, on ne va pas accepter les témoignages comme cela simplement parce que la parole de la personne parle. Hein. On va éprouver le témoignage. Les avocats, en particulier les avocats de la défense peut-être, eh bien ils vont poser des questions. Bon, ils ont demandé, ils vont essayer d'éprouver le témoignage pour voir s'il est fiable, s'il est véridique. Hein. Ils voudront essayer de connaître les détails, mais on ne va pas demander au témoin d'avoir fait de hautes études de droit. Hein. On ne va pas demander au témoin, voilà, vous pourrez témoigner seulement si vous êtes un avocat, non. On ne va pas lui demander des compétences extraordinaires. On va lui dire, demander de dire quoi? Simplement quoi? La vérité, voilà. Tenez-vous-en à la vérité. Si vous en tenez à la vérité, eh bien l'avocat pourra vous poser des questions, des contre-questions, il pourra vous poser tout. Si vous en tenez à la vérité, eh bien vous vous en sortirez toujours. Hein? Donc voilà, simplement ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qui est parvenu à sa connaissance, et je dirais s'il est saint d'esprit, s'il arrive à s'exprimer, je dirais d'une manière compréhensible, simplement, hein, pas besoin d'avoir un grand langage très châtié, eh bien son témoignage va finir par avoir valeur de preuve, hein, je dirais. Et ainsi en est-il de tout vrai croyant, à l'image de cette jeune fille. Voyez-vous, elle a dit ce qu'elle savait. Elle a dit ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait entendu, elle l'a dit avec conviction, elle l'a dit avec assurance, elle l'a dit avec persuasion, elle l'a dit avec simplicité aussi, sans exagération. Quand on l'a interrogée, quand on lui a posé des questions, ce qui n'a pas manqué de se produire, eh bien, elle a dit ce qu'elle savait, et puis, quand elle ne savait pas quelque chose, elle l'a reconnu sincèrement, hein, parce que ce n'est pas parce qu'on est un témoin qu'on a tout vu et tout connu, hein. Donc voilà, et puis elle a dit de toute évidence, sans avoir rien de spécial à gagner pour elle-même. Et elle a dit aussi, nous le savons, nous le voyons par sympathie, par amour en faveur de Naaman et de sa femme. Rappelons-nous que l'apôtre Paul, qui lui par contre, était un redoutable débatteur, c'était un grand apologète, c'était un grand défenseur de la foi, c'était un grand démonstrateur. Remarquez que pourtant, il met toujours son propre témoignage en avant. C'est toujours ça qu'il fait. Et en 6 occasions, dans le Nouveau Testament, quand il est expliqué, il nous est rapporté qu'il devait rendre compte publiquement de sa foi devant des foules qui pouvaient être hostiles ou incrédules, eh bien, il commençait toujours par donner son témoignage. Il mettait toujours son témoignage en avant. Alors, si nous avons réellement rencontré Christ, si nous l'avons vu agir dans notre vie, si nous avons vu des miracles de sa part, si nous avons été témoins de vies qui ont été changées par la puissance de Dieu, ayons à cœur nous-mêmes d'être des témoins, hein, et croyons à la persuasion, croyons à la force de notre témoignage. Alors vous me direz, tous n'y croiront pas, c'est vrai que tous n'y croiront pas, parce que beaucoup n'aiment pas la vérité, hein. Beaucoup préfèrent, ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils ne pensent qu'aux choses de la terre, et la réalité d'un Dieu vivant, c'est quelque chose qui les dérange. Mais, malgré tout, il y en a qui cherchent. Il y en a qui soupirent après quelque chose de grand, de beau, de vrai. Il y en a qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de solution dans cette vie. Ils n'ont pas de solution sur cette terre. Il y en a, ils ont peur de la mort. Et ils ont soif d'amour, de pureté, de vérité. Et parmi eux, il y en aura qui seront touchés. Parce qu'en même temps, le Seigneur va suivre votre témoignage. Le Seigneur va l'accompagner, il va le confirmer. Pourquoi ? Bien parce que ça entre pleinement dans le grand ordre de mission, hein, qui constitue notre vocation principale. Ça entre pleinement dans le grand cadre dans lequel le Seigneur nous a préparé de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions et que l'Évangile soit ainsi annoncé. Amen. Amen. Une troisième chose qui a permis que ce miracle se passe, c'est l'esprit de recherche et de courage qu'il y a eu en Naaman. Ah, ça c'est quelque chose, hein. Vous avez vu, il s'est mis en route, hein. Il a fait des efforts, il a pris de la peine, il y a consacré du temps, des moyens, de l'énergie, il a montré du courage, hein. Et certaines de ses conceptions étaient erronées, elles étaient fausses, mais il s'est mis à l'œuvre. Vous savez, le Seigneur le dit, et il faut insister là-dessus. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel merveilleux encouragement, et quel merveilleux encouragement à persévérer en cela. Vous savez, le problème de beaucoup de gens, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas envie. C'est pas la peine d'aller chercher beaucoup plus loin, hein. Et ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas de cran, hein. Donc ils ne veulent pas faire d'efforts dans ce sens. Alors ils vont cacher ça derrière quoi ? Derrière du scepticisme, de l'ironie, ou soi-disant des doutes, mais la réalité, c'est qu'ils sont tout simplement négligents. La réalité, c'est quand même ça. Il nous est parlé des anciens prophètes, dont il nous est dit qu'ils ont fait du salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Qu'il puisse en être ainsi pour chacun parmi nous ici. Vous savez, tout homme, sans exception, devrait avoir un esprit de recherche et d'approfondissement de la vérité, de communion avec Dieu et de la révélation divine. Et quand je dis tout homme, Je ne pense pas seulement à ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, à ceux qui sont perdus loin de Dieu, mais à tous ceux qui sont perdus près de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi. Ceux qui sont perdus près de Dieu. Et ainsi, je suis obligé de constater que depuis le temps que j'annonce l'Évangile, donc depuis les dizaines d'années que j'annonce l'Évangile, j'ai vu que la majorité des enfants de chrétiens se sont perdus loin de Dieu. La majorité des enfants de chrétiens abandonnent Christ. Ils abandonnent le Seigneur et ne se tournent pas vers lui. La majorité, la grande majorité même. Et pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais parce que trop souvent, ils se reposent sur une fausse sécurité, voyez-vous, hein? Parce qu'ils pensent qu'ils connaissent le message de l'Évangile, alors qu'ils approfondissent tellement peu la parole de Dieu pour eux-mêmes. Ils s'imaginent qu'ils savent comment prier, alors qu'ils ont tellement peu de réelle communion avec Dieu. Ils sont persuadés qu'ils connaissent l'assemblée, qu'ils savent ce que c'est que la communion fraternelle, ils savent comment il faut se conduire à l'église, etc., pour se faire apprécier les autres, alors qu'ils ne savent pas, ils ne pratiquent pas vraiment le fait d'être des compagnons de service, des compagnons d'œuvre, et encore moins des compagnons de combat, hein. Et ils peuvent vous donner éventuellement même un témoignage du haut de la chair, hein, peut-être, oui. D'ailleurs, ce témoignage sera souvent toujours le même, hein, mais leur témoignage de vie, leur témoignage de parole à l'extérieur, ben, il est faible, il est muet, voire inexistant. Hein. Donc, et tout ça parce que leur foi, qui peut être vieille depuis la naissance, je dirais, ou depuis des dizaines d'années, est en réalité superficielle, et qu'elle manque de racines profondes. Et la parole de l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 17, verset 27, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Cette parole est pleinement valable pour chacun d'entre nous et pour eux aussi. Quand il est dit « achète la vérité et ne la vends pas », ça veut dire que la vérité a un prix. La vérité, ça ne se reçoit pas comme ça gratuitement, ce n'est pas vrai. Ça ne s'intègre pas dans notre vie comme ça gratuitement, il y a un prix à payer. Et un prix qui est élevé, hein. Pour posséder la vérité, il faut payer ce prix, parce que sinon, on n'arrivera pas à la tenir, on n'arrivera pas à la retenir, sinon, on va la brader, on va se la faire voler, on va se la faire enlever. Et pourtant, c'est une condition majeure, fondamentale du salut. Considérez le début du livre des Proverbes, et voyez l'insistance que l'auteur inspiré met sur le fait de rechercher la parole de Dieu, de creuser, de vraiment d'approfondir les choses. Je vous lis simplement quelques extraits, je ne vais pas vous lire tous les passages, mais par exemple dans Proverbes 2, versets 1 à 5, « Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. » C'est ça la condition, voyez-vous? Il faut chercher vraiment. Même si vous êtes né dans l'Église, il faut chercher vraiment, sinon vous irez en enfer. C'est ça la réalité. Et vous pouvez continuer, vous avez bien d'autres passages encore. Lorsque vous regardez au chapitre 4, par exemple, tout ce passage-là, tout ce début du texte que nous voyons là, du verset 5 au verset 8, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche, ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, elle te gardera, aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Et voilà, je pourrais encore continuer à lire dans tous ces versets. Vous savez, sans être prophète de malheur, hein, il est à craindre qu'un certain nombre de ceux qui sont ici, s'ils ne se remuent pas très sérieusement, eh bien, s'ils ne se remettent pas en question radicalement, ils vont aller dans le mur, hein. Comme deux et deux font quatre. Ça, c'est sûr et certain. Et si je peux dire ça, ben, c'est parce qu'il suffit de voir comment le monde évolue. Il suffit simplement de voir comment les choses vont de plus en plus mal, comment le diable prend de plus en plus la main, comme le diable met de plus en plus en place des pièges sophistiqués, nombreux, comment les faux messages, comment les faux prophètes aux apparences séduisantes se multiplient, et comment, rien qu'au travers de cette crise du Covid, comment tant de chrétiens se sont trompés de combat. Hein, rien que ça déjà, hein. Mais eux, ils sont tellement naïfs, ils sont tellement superficiels, tellement remplis d'illusions qu'ils pensent qu'ils vont s'en sortir malgré tout, et il est vraiment temps de se réveiller pour eux. Il est vraiment temps de chercher le Seigneur et de tout son cœur et sans tarder, parce que c'est le seul moyen d'échapper aux ténèbres qui viennent sur le monde et d'avoir la victoire en Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, ça c'est nécessaire et ça c'est salutaire. Et puis une quatrième chose qu'on peut voir après cet esprit de recherche vraiment qu'il y avait en lui, c'est qu'il y a eu heureusement aussi l'assurance de la foi de l'homme de Dieu. L'assurance de la foi du prophète. Hein, donc, le roi n'avait pas la foi. Hein, le roi d'Israël, il a déchiré ses vêtements, il a dit « mais c'est pas possible », etc. Heureusement que l'homme de Dieu a envoyé ce message qui était rempli de conviction. Et parce que ce prophète n'était pas un homme de religion, ni un homme de tradition, mais un homme de Dieu, parce que c'était un homme de la parole de Dieu, c'était un prophète, c'était un homme de foi. C'est pour ça que ce maillon indispensable au miracle a pu être mis en place et contribuer à la guérison et au salut. Et quelle importance aujourd'hui encore des ministères de foi. Amen. Et puis vous avez eu encore, en cinquième, vous avez eu le refus du compromis et de la bassesse de l'homme de Dieu. Le refus de la compromission et de la bassesse. Voilà. Ah ben oui, on lui a annoncé la venue de ce personnage qui était de grande importance, Naaman, hein, et beaucoup, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ben, ils auraient fait des courbettes, ils auraient préparé toutes sortes de choses pour l'accueillir avec honneur, avec respect. Mais Élisée ne lui prête apparemment aucune attention. Et il le fait exprès. Il le fait exprès, pourquoi? Eh bien, il le fait exprès parce que l'objectif, c'est que Dieu soit glorifié. C'est pas que l'homme soit mis en évidence. Vous savez, Élisée se tient devant Dieu. Et devant Dieu, il n'y a ni petit ni grand. Hein. Devant Dieu, il n'y a que des pécheurs coupables. Et devant Dieu, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Et c'est aussi parce que le prophète a agi ainsi que Naaman, même choqué, même irrité au départ, a malgré tout été amené à se remettre en question et à s'humilier à salut. Et puis, vous avez une sixième chose encore, qui a été absolument importante et indispensable. Le fait que Naaman accepte d'écouter les conseils. Le fait qu'il accepte d'écouter les conseils pleins de sagesse de ses serviteurs, qui vont l'amener à infléchir sa position et finalement à accepter la parole de l'homme de Dieu. Vous savez, l'importance d'écouter les conseils, l'importance de rechercher de bons conseils, chercher des conseils de personnes dignes de confiance, chercher les conseils de ceux qui veulent notre réel bien. Naaman, homme de valeur, savait une chose. Naaman, chef d'état-major, savait une chose, c'est que pour remporter une victoire, il faut les avis d'un état-major. Hein. Il savait qu'il y a plus dans deux têtes que dans une, tout simplement. Il savait que l'assemblée qui délibère, c'est un gage de succès. Il savait cela. Et donc, cet homme, eh bien, il a réalisé cela, et nous devons réaliser cela, surtout quand nous avons des choix importants à faire dans la vie, que nous ne les fassions pas tout seuls de grâce, mais que nous cherchions le conseil. C'est salutaire, c'est nécessaire pour chacune et chacun d'entre nous. Nous voyons cela. C'est ainsi que cet homme a pu revenir donc dans le bon chemin et être béni. Et puis la septième chose que nous voyons aussi, qui a été un grand moyen de salut, c'est le désintéressement du prophète Élisée. Hein, on le voit cela, il n'a rien voulu. Donc c'est un homme qui travaillait pour Dieu, un homme qui avait à cœur la cause divine, un homme qui prenait des risques pour Dieu, qui était attaché réellement aux choses du ciel et pas à celles de la terre. Et c'est aussi cet exemple-là qui a encouragé Naaman à prendre une décision profonde et salutaire. Et ça nous aide aussi à comprendre... Pourquoi dans la suite, bon, le passage que je n'ai pas lu, hein, mais qui continue, donc Géasi, serviteur d'Élisée, qui lui, il a voulu tirer des intérêts financiers de cette affaire, comme pourquoi il a été frappé d'une façon qui peut nous paraître aussi sévère au premier abord. Hein. Il a été frappé de la lèpre de Naaman, lui, non seulement lui, mais encore toute sa descendance. Pourquoi? Eh bien parce que ce qu'il faisait, c'était vraiment un contre-témoignage. C'était une occasion de chute potentielle pour être un scandale à ce nouveau converti si bien disposé, hein, donc, mais qui en même temps pouvait être impressionnable pour le bien et je dirais décourageable par le mal. Hein, donc, et ceci nous confirme encore, s'il en est besoin, l'immense valeur d'une âme pour Dieu, en particulier d'une âme bien disposée qui se tourne vers lui pour qu'on ne la scandalise pas, voyez-vous. Hein, donc, et ceci nous montre encore que tout spécialement, quand Dieu est en train de manifester sa puissance, comme à ce moment-là, par ce magnifique miracle de guérison de lèpre, bien, il faut bien prendre garde de ne pas interférer avec de petites magouilles, de petits bricolages humains, comme on dirait aujourd'hui, parce qu'on prend de grands risques si on n'a pas la crainte de Dieu. Hein. Guéhazi a eu, hélas, le même état d'esprit qu'Ananias et Saphira, nous savons ce qui leur est arrivé dans les Actes des Apôtres, ou que Simon le magicien, encore dans les Actes des Apôtres, que l'apôtre Pierre a repris, nous le savons, d'une manière extrêmement sévère. Et là encore, nous voyons les raisons du combat acharné de Jésus contre l'amour de l'argent, contre la convoitise, cette idolâtrie qui menace tout homme, même les croyants, et pour les dévoyer inexorablement de la voie de la foi, parce qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Amen. Amen. Voilà, on a fini notre premier chapitre. Nous passons maintenant au deuxième. Les choses qu'il a fallu que Naaman abandonne pour que sa guérison et sa conversion s'accomplissent, parce que souvent, Dieu nous demande d'abandonner pour nous donner. D'abandonner d'abord pour nous donner ensuite. Et c'est nécessaire qu'il en soit ainsi. La première chose qu'il a dû abandonner, c'est l'orgueil de convenance. L'orgueil du respect qui pensait lui être dû. Hein. Il était venu là avec toute son équipe, avec toute sa caravane, voilà, ses chevaux, son char, toute sa suite, tous ses serviteurs, toute cette pompe qu'il y avait là. Et puis, il se disait, le prophète, il sortira vers moi, dit-il. Voilà ce qu'il s'imaginait, verset 11. Hein. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie simplement un employé. Ça peut paraître un affront. Il n'avait pas l'habitude d'être traité comme ça. Mais vous savez, devant Dieu, tout ça, ça n'a aucune importance. Il faut que celui qui s'élève soit abaissé, parce que c'est aux humbles que Dieu fait grâce. Amen. Il a fallu qu'il abandonne aussi sa propre conception de la façon dont les choses devaient se faire. Donc, le verset 11, il dit, « Voici, je me disais. Ah, je me disais, ça va se passer comme ci. Ah, je me disais, ça va se passer comme ça. » Les gens, ils sont comme ça. Et bien moi, pour que je croie en Dieu, il faut que Dieu fasse ceci et que Dieu agisse de cette manière. Vous croyez que Dieu va se laisser canaliser dans nos idées comme ça? Ben non, c'est pas comme ça. Hein. Son idée, voilà. Et c'est d'ailleurs exprès pour ça que Dieu agit à l'envers. Dieu agit en contradiction. En contradiction, pourquoi? Pour nous rappeler, nous montrer, nous expliquer que les voies de Dieu ne sont pas nos voies et que ses pensées ne sont pas nos pensées. Hein. Nous sommes prisonniers, nous, de schémas rigides hein, qui sont infligés par notre caractère, par notre éducation ou notre manque d'éducation, par nos expériences, par notre passé, par notre entourage. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Et heureusement qu'il en est ainsi. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit disponible pour que laisser Dieu agir, abandonner nos conceptions de la façon dont Dieu devrait agir. Il a fallu qu'il abandonne aussi son mépris vis-à-vis des moyens de Dieu. Hein? Verset 12, il méprise le Jourdain. Hein, le Jourdain, mais le Jourdain, toutes les eaux d'Israël, c'est quoi ce Jourdain? L'Abana et le Parpar, hein, ces fleuves qui passent à Damas, ce sont des symboles de la beauté, de la culture, du raffinement damascénien, donc de cette ville. Oui, mais oui, mais voilà. Le Jourdain, c'est un moyen, ça a été un moyen fréquent d'accomplir des miracles. Dieu a souvent accompli des miracles dans le Jourdain et au travers des Jourdains. Je ne vais même pas revenir sur ces occasions-là. Mais vous savez, ce Jourdain, il paraît rien, mais c'est le moyen de Dieu. Et vous savez, la parole de Dieu, bien souvent, elle peut paraître peu de choses. Hein. Elle peut paraître peut-être, je ne sais pas, rudimentaire, frustre, rude, comparée peut-être au raffinement apparent, en tout cas, de certaines philosophies, de certains ouvrages de littérature prestigieux. Mais rappelez-vous une chose, c'est quel est le moyen du miracle de Dieu. Elle est le moyen du miracle de Dieu. Et quels que soient les tours, les contours et les contorsions qu'on essaye de faire pour échapper à cette réalité, si on veut voir Dieu agir, il faut abandonner son mépris vis-à-vis des moyens de Dieu, que ces moyens s'appellent Bible, prière, assemblée, témoignage, prédication, imposition des mains. Voilà. Il faut abandonner son mépris vis-à-vis de ça. Sa négligence, je suis toujours émerveillé et toujours encouragé lorsque dans l'Écriture, je vois les moyens simples que Dieu emploie exprès pour accomplir de grands miracles autrefois comme aujourd'hui. Rappelez-vous le bois qui a été indiqué à Moïse pour être jeté dans l'eau et puis rendre les eaux de Marah buvables. Hein? Rappelez-vous la façon de tourner autour de Jéricho pendant 7 jours pour que la muraille tombe. Rappelez-vous la mâchoire d'âne entre les mains de Samson pour remporter une grande victoire contre les Philistins. Rappelez-vous le plat neuf et le sel au temps d'Élysée pour enlever toute mort et toute stérilité des eaux de Jéricho. Rappelez-vous les vases vides et le petit vase d'huile d'olive pour la multiplication de l'huile en faveur de la veuve du prophète pour la délivrance de ses fils. Rappelez-vous les corbeaux pour nourrir Élie au torrent de Kérit. Rappelez-vous le petit peu d'huile, le petit peu de farine au fond du pot pour pourvoir le temps de la famine pour Élie et la veuve avec son fils. Rappelez-vous aussi la farine mise dans le potage des coloquintes pour enlever la mort qui est dans le pot pour nourrir les fils des prophètes dans la famine. Et puis, les multiplications des pains du Seigneur Jésus. Hein, rappelez-vous, 5 pains, 2 poissons, une foule de 5000 hommes nourris, 12 paniers pleins de morceaux qui restaient, qui sont ramassés. Rappelez-vous la boue sur les yeux pour guérir l'aveugle-né. Et les moyens si fréquemment utilisés par le Seigneur, depuis tous ces siècles, au travers des siècles et jusqu'à aujourd'hui, que sont l'imposition des mains, l'onction d'huile accompagnée de la prière de la foi. Et on pourrait citer ainsi bien d'autres miracles. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que le Seigneur privilégie toujours de tels moyens ? Pourquoi cela ? Hein ? Eh bien, c'est pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons, donc, pour nous montrer tout d'abord que l'opération du miracle, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tous sans exception. Il n'y a pas besoin de grandes richesses. Il n'y a pas besoin de moyens exceptionnels pour bénéficier du miracle divin. Dieu montre aussi de cette manière son souci d'égalité entre tous les hommes, d'accessibilité possible au salut de Dieu et à la puissance de Dieu pour tous les hommes. Et puis une deuxième raison, c'est pour faire le tri. Pour faire le tri entre les orgueilleux et les humbles. Ah oui, parce que c'est une mise à l'épreuve, hein, pour voir ceux qui acceptent de passer par des moyens, par des méthodes, je dirais si simples, qui ne sont pas sophistiquées, et les séparer de ceux qui se croient quelque chose et qui ont du mal à accepter. Et puis une autre raison encore, pour montrer aux hommes que ce n'est pas le moyen qui est important, mais ce qui est important, c'est celui qui donne le moyen. Pour qu'on ne place pas sa foi dans le moyen, mais qu'on place sa foi dans le Seigneur qui a commandé le moyen. Amen. Hein? Et puis aussi pour nous apprendre l'obéissance de la foi. Pour nous apprendre à obéir même si ça nous surprend. Même si on ne comprend pas comment ça marche. Même si on n'a pas encore toutes les réponses. Et pour nous apprendre que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et que par conséquent, il faut toujours que nous cherchions quelle est la volonté de Dieu. Et pourquoi ? Bien parce que c'est quelque chose qui nous surprendra probablement toujours. Et pour nous apprendre aussi que Dieu peut faire des miracles en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Dieu trouvera toujours un peu de terre pour mettre sur les yeux, un peu d'eau pour faire une œuvre encore, un peu d'huile, un peu de farine, un peu de ceci, un peu de cela, Dieu trouvera toujours. Hein. Pour lui, ce n'est pas un problème. Donc, il trouvera toujours le moyen de le faire pour ceux qui croient. Et puis, bien évidemment, pour que ce soit lui qui soit glorifié, pour que ce soit à lui que revienne toute la gloire, car il est évident que quand des moyens aussi simples et humbles sont utilisés, il n'y a qu'à lui que la totalité du mérite peut être attribuée. Amen. Amen. Voilà, car la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Et puis, en quatrième, il a fallu qu'il abandonne aussi l'idée de considérer l'Éternel comme le Dieu de quelqu'un d'autre. Dans le verset 11, il dit, il se disait, il invoquera l'Éternel son Dieu. Il invoquera l'Éternel son Dieu. Ça veut dire que maintenant, il va falloir qu'il en arrive à considérer l'Éternel comme son propre sauveur et son propre Seigneur. Vous savez, certains s'imaginent, ils se sentent peut-être plus libres quand ils se considèrent Dieu comme extérieur à eux-mêmes, quand ils peuvent dire à Dieu, jusqu'ici et pas plus loin, il y a beaucoup qui veulent ça. Mais c'est une preuve de perdition, ça. C'est pas une preuve de salut. Parce que si Dieu est le Dieu d'un tel ou d'une telle, si Dieu est le Dieu de mon père ou de ma mère, si Dieu est le Dieu de tel frère ou telle sœur, mais que ce n'est pas mon Dieu, eh bien, comment est-ce que je vais prier ? Comment est-ce que je vais prier de manière à être exaucé ? Comment est-ce que je vais pouvoir prier avec espérance ? La grande chose de notre vie, la grande chose de ma vie, c'est lorsque j'en suis arrivé à considérer Dieu comme mon Dieu personnel. Alléluia. C'est ça qui change tout dans notre existence. Et ça, un jour, il faut l'avoir réalisé. Et ainsi, avoir découvert combien Dieu est un Dieu de bonté pour moi. Amen. D'avoir réalisé qu'il est pour moi meilleur que le meilleur des pères. Qu'il est plus proche et plus aimant que le meilleur des amis. Qu'il est attentif à ma situation, à mes pensées, à mes actes, à mes paroles, à mes besoins, plus que ceux qui m'ont mis au monde. Voilà, hein, donc, et c'est comme ça que je peux venir à lui à chaque instant, avec confiance et reconnaissance, hein, pour lui remettre toutes choses. C'est comme ça qu'on peut développer une communion profonde, jour après jour. C'est comme ça qu'on peut faire des expériences jour après jour, et qu'on a un témoignage qui se renouvelle aussi, à chaque fois, parce que Dieu nous fait faire ses bonnes expériences. C'est comme ça qu'on peut marcher devant Dieu, comme marcher avec le Seigneur, et puis qu'on peut savoir et croire qu'il a un plan personnel pour moi. Amen. Alléluia. Et des projets particuliers afin de me donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Alléluia. Et les conséquences, par conséquent, eh bien, on va chercher ce plan et cette volonté. Est-ce que tu as vraiment fait cette expérience? Est-ce que le Seigneur est vraiment ton Dieu personnel? Est-ce qu'il en est toujours ainsi, de manière continuelle, de manière suivie? Hein, voilà la nécessité, voilà la chose précieuse et importante. Amen, amen. Et puis une cinquième chose, il a fallu qu'il abandonne l'idée de vouloir faire quelque chose de difficile. C'est ce que les serviteurs lui disent. Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait, hein? Vous savez, bien des gens, ils disent, mais moi je ne vais pas me dire à l'évangile, c'est trop simple. C'est trop simple pour eux, voilà. Il faut qu'ils aient le sentiment, je ne sais pas, d'avoir accompli un exploit, pour qu'ils se sentent valorisés, hein, pour que leur amour-propre soit flatté, voilà. Il faut qu'ils éprouvent du mérite, il faut qu'ils éprouvent de la satisfaction d'eux-mêmes. Mais vous savez, là aussi, il faut que ça change, hein. Il faut qu'on vienne au Seigneur tel que nous sommes, hein. Voilà ce merveilleux chant, « Tel que je suis sans rien à moi ». Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, et le faire sans tarder. Si vous devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et puis il a fallu qu'il abandonne aussi le refus de se découvrir devant ses serviteurs. Ça aussi c'était quelque chose, hein. Il est marqué, il descendit dans l'eau, hein. Il s'est abaissé, il est descendu. Ça a été une humiliation pour lui. Il s'est dévêtu là, ben voilà, son corps, son mal a été exposé. Vous savez, on a bien du mal à se découvrir. On a bien du mal à admettre ce qu'on est. On a bien du mal à nos propres yeux, hein, à nos propres yeux même, à quitter notre masque, à abandonner les apparences. Mais à être comme on est, à être simple, à être vrai, à être transparent devant Dieu et devant les hommes. Et ceux qui ont l'amour de la vérité pour être sauvés, bien ceux-là vont agir ainsi. Amen. Et puis il a fallu en septième qu'il abandonne le refus d'obéir à la parole de Dieu pratiquement. Ah oui, parce qu'il fallait plus que des intentions. Fallait plus que des paroles, fallait plus qu'une acceptation théorique, fallait plus qu'une religion d'apparence, fallait plus que des cadeaux à l'homme de Dieu, fallait plus que des cérémonies, plus que des rites religieux, pardon, plus que des cortèges et plus que des processions. Il fallait obéir physiquement à la parole de Dieu. Et vous avez comme ça, par exemple, pour l'engagement du baptême, ben ils sont toujours là en train d'hésiter. Eh ben, Naaman, lui, il est descendu dans l'eau, hein. Il n'a pas discuté, il est allé. Tout de suite, hein. Il y en a, ils veulent pas obéir physiquement. Et c'est, le problème est là, hein. Il fallait que l'obéissance soit dans le corps, pour que la bénédiction descende sur le corps et qu'elle descende sur l'âme aussi. Et pour qu'une puissance de guérison se manifeste dans ta vie, mais il va peut-être falloir que tu t'engages un jour pour suivre le Seigneur et pour vraiment lui donner ta vie. Et c'est parce que Naaman a accepté l'abandon successif de tous ces éléments qu'il a été si complètement béni et sauvé par Dieu. Amen. Enfin, notre conclusion, notre troisième point plutôt, les choses auxquelles on découvre qu'il est vraiment converti à Dieu, déjà le fait de revenir vers l'homme de Dieu. Hein, donc, après avoir fait cette expérience avec la parole de Dieu, il est revenu publiquement et avec toute sa suite. Cet homme a réalisé la nécessité de s'approcher de Dieu, de s'attacher à lui, et je dirais, on peut définir ça tout simplement comme de la reconnaissance. De la reconnaissance. Vous savez, la reconnaissance, c'est une preuve première d'une vraie conversion. quand quelqu'un est reconnaissant. Hein. Cet homme a vraiment réalisé quelque chose au-delà de sa guérison miraculeuse. Il a été puissamment bouleversé, remué, non seulement dans son corps, mais aussi dans son âme et dans son esprit. Et nous voyons qu'une œuvre magnifique de nouvelle naissance s'est opérée en lui. Et il en est résulté un attachement profond à la parole de Dieu, à l'homme de Dieu, au Seigneur lui-même, bien sûr. Et vous savez, le prophète Élisée, il avait organisé les choses de manière à ce que ce soit tellement simple pour Naaman de repartir après sa guérison. Il suffisait de quitter la maison du prophète, d'aller jusqu'au Jourdain, de se tremper cette fois dans l'eau, et après, le chemin pour Damas, c'était tout droit, en continuant, tout simplement. Donc, tout était simple pour partir. C'était plus compliqué de revenir. Eh bien, voilà. Mais non, cet homme est revenu. Cet homme est revenu sur ses pas, et ce n'était pas sur un coup de tête, ce n'était pas un moment d'émotion passager, ce n'était pas une démarche superficielle. Nous voyons que cet homme a fait les choses en profondeur. Tout au long du chemin, il a réfléchi lorsqu'il est revenu vers la maison d'Élysée. Il a profondément changé sous l'action de l'Esprit de Dieu qui agissait avec puissance au plus profond de lui-même. Et c'est ça qui a fait qu'il est arrivé dans cette attitude de reconnaissance profonde et durable. Jamais il n'oubliera ce que Dieu a fait pour lui. Il veut s'attacher à lui pour toujours. Amen. Et puis vous avez aussi... une deuxième chose qui manifeste sa conversion, c'est le fait de donner un témoignage. Il le donne spontanément, hein. Donc, le témoignage de la puissance de Dieu, du fait que Dieu est unique, selon verset 15, on le voit, le témoignage de sa reconnaissance, de son adoration, le témoignage de sa soumission au Dieu vivant. Il n'y a pas besoin de lui dire, il faut que tu donnes ton témoignage. Non, toc, ça vient, parce que c'est en lui maintenant. La vie de Dieu, donc ça sort le témoignage. Hein. Et puis, la troisième chose encore, le fait de vouloir faire un présent. Ça manifeste un esprit de générosité. Il veut pas faire ça comme un, je ne sais pas moi, comme un salaire ou comme un solde de tout compte et quelque chose. Non, mais c'est une marque d'engagement de sa part pour suivre le Seigneur et faire sa volonté. Un signe qu'il veut lui donner toute sa vie. Voyez donc cet homme qui s'approche du Seigneur maintenant, non plus pour recevoir, mais pour donner. Et ça aussi, quand quelqu'un s'approche du Seigneur pour donner, eh bien ça aussi c'est un grand point qui nous parle d'une réelle conversion, d'une marque d'authentique conversion. Et puis, remarquez une quatrième chose, c'est sa manière de s'humilier devant l'homme de Dieu. Hein, donc, lorsque vous regardez toujours dans ce verset 15 qui est crucial, donc il dit, il se présente, « Maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Pensez-vous donc avant qu'il aurait pensé que Élisée était son serviteur? Hein, que pendant qu'il était le serviteur d'Élisée, hein, il pensait qu'Élisée était son serviteur. Mais là maintenant, c'est lui qui dit qu'il est le serviteur d'Élisée. Voyez la différence. Voyez, là aussi, vous aussi rendez-vous serviteurs les uns des autres. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quel changement d'attitude nous voyons en lui dans cette situation. Et puis... cinquième chose aussi, une cinquième preuve de sa conversion, c'est que maintenant, eh bien, il ne veut servir que le Dieu vivant et vrai. Il veut servir personne d'autre. L'apôtre Paul, s'adressant aux Thessaloniciens, marque la réalité de leur confession en disant « Comment vous vous êtes convertis à Dieu ?» en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre des yeux son Fils, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Et puis cet homme aussi a démontré la réalité de sa conversion en sixième parce qu'il a réfléchi aux suites de cet engagement, aux suites de cet engagement dans sa vie pratique. Il n'en avait pas resté juste au stade des intentions. Hein. Nous voyons qu'il a passé en revue tous les aspects de sa vie personnelle, tout ce qu'il pouvait y avoir dans sa vie de famille, dans son service officiel, vous voyez, quand il est arrivé avec l'histoire de Rimmon, là, ça veut dire qu'il avait réfléchi à la question. Il avait pensé à ça avant, et de ses occupations, de ses loisirs, pour voir quelles implications pratiques sa foi allait avoir à chaque fois. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous explique pourquoi Dieu a pu ainsi le bénir. Et enfin, considérer l'importance de la vraie repentance. Hein, cet homme, il cherche quoi? Il cherche le pardon divin. On le voit bien dans le verset 18 lorsqu'il dit « Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Et voyez donc l'importance de la repentance aussi. Et cette attitude de repentance qu'on voit chez cet homme. Voilà, nous avons des éléments d'une vraie conversion, ils sont là. Alors maintenant, ça nous amène à la conclusion, avec, parce qu'il y a quand même des gens qui se sont posés des questions, qui ont posé la question. Certains ont pensé que le prophète Élisée avait fait une erreur en permettant à Naaman de se pencher devant l'idole royale à Damas, en lui disant en plus, va en paix. Hein, voilà. Alors ils vont dire, qu'en est-il de tous ceux qui dans l'Écriture se montraient en exemple, comme les amis de Daniel, qui au risque de leur vie ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, par exemple, ou comme Mardochée, lui aussi au risque de sa vie, qui a refusé de se prosterner au passage d'Aman dans le livre de Ruth. Est-ce qu'il n'a pas là une porte ouverte à de coupables compromissions? Et puis qu'en est-il du commandement divin qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » et encore « Tu ne te feras point de représentation des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, et tu ne te prosterneras pas devant elles. » Voilà, hein, donc ça c'est une argumentation qu'on peut accepter, oui, qu'on peut accepter, tant qu'elle est déconnectée, je dirais quelque part, de cette situation concrète. La règle générale, c'est la loi, mais vous savez, il y a la loi et il y a l'application de la loi. Pardon. Élisée, homme de Dieu, homme de grande expérience, rempli du Saint-Esprit, pardon, il sait ça. C'est ça, et c'est même beaucoup plus que ça. Hein. Donc, et nous pouvons l'imaginer, Élisée, en train de méditer sur la grandeur et la puissance de Dieu pour accomplir ce miracle. En train de méditer aussi sur la grâce de Dieu envers cet homme, sur l'acceptation devant Dieu d'un homme qui certainement avait mené des troupes au combat contre Israël. La jeune esclave qui lui avait témoigné en était une preuve, hein. Et puis, méditant encore, avec encore plus d'émerveillement, sur la profonde transformation qui s'est déjà opérée dans le cœur de cet homme, sur les bonnes dispositions qu'il discerne en lui. Et puis, il se dit, mais j'aimerais tellement voir de bonnes dispositions dans beaucoup de gens en Israël, dans beaucoup de mes concitoyens, ceux au milieu desquels j'annonce la parole de Dieu, avec si souvent bien peu de résultats. Voilà. Il discerne là un homme au cœur sensible, à la conscience, à l'écoute de la parole de Dieu, profondément désireux de faire la volonté de Dieu, et puis il a dû continuer sa méditation sur les chemins étonnants de l'action de Dieu pour préserver la paix entre Israël et la Syrie, puisqu'avec un pareil allié qui avait l'oreille du roi de Syrie et un grand prestige, les intérêts du peuple de Dieu seraient préservés au mieux. Et tout ça, c'est tellement magnifique. C'était tellement évidemment l'œuvre de Dieu, il était tellement certain que la main de Dieu était dans l'affaire, que le prophète était intérieurement convaincu que Dieu continuerait à suivre cet homme, continuerait à le diriger, continuerait à lui parler, il continuerait à lui faire comprendre les choses en leur temps. Et aussi, Élisée a manifesté sa confiance en Dieu parce qu'il a eu la sagesse de considérer que ce n'est pas parce que Naaman va le quitter que l'œuvre divine va s'arrêter avec cette séparation. C'est parce que Élisée sait que Dieu est fidèle, qu'il croit que Dieu va aussi régler ce problème-là en son temps. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a affaire là à un homme au cœur bien disposé. Moi, je me réjouis de pouvoir un jour trouver Naaman le Syrien dans le ciel. Hein, je me réjouis de cela. Hein. Ayons à cœur, frères et sœurs, de marcher dans le chemin du salut et de la bénédiction avec la même ardeur, avec le même amour de la vérité, avec la même sincérité, avec la même fidélité et le même courage que lui. Et rappelons-nous ce que nous avons lu au départ, c'est que le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'il n'y a eu aucun autre lépreux guéri en Israël du temps d'Élisée. Naaman a été le seul. Dans tout le peuple de Dieu, il n'y en a pas eu un qui a eu la foi de Naaman sur ce point-là. Et donc, ça veut dire que ce modèle-là, eh bien, il est spécialement précieux pour nous. Et ça veut dire que nous devons aussi ne pas nous reposer sur le fait de faire partie du peuple de Dieu, mais veiller à avoir la même foi vivante qu'il a démontrée et suivre son exemple béni en tout point pour que le Seigneur puisse se glorifier dans nos vies. Que le Seigneur bénisse sa parole pour chacun de nous. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour. Merci Seigneur pour ta parole par laquelle tu nous enseignes le bon chemin, par laquelle tu nous enseignes la voie droite, par laquelle tu nous confortes et tu nous encourages aussi Seigneur. Et merci notre Dieu pour toute bonne œuvre, pour tout miracle que tu veux encore accomplir aujourd'hui, parce que tu es toujours le même, parce que tu ne changes pas. Sois béni et glorifié mon Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Et je vous rappelle simplement la réunion de prière, mercredi à 20h15. On ne reprend pas encore l'école du mercredi, on va attendre que la contagion se calme. Donc, réponse aux questions bibliques, c'est vendredi à 19h15. La réunion d'évangélisation, c'est aussi vendredi, mais à 20h15. Et l'évangélisation, la distribution d'invitations dans les villages, c'est le samedi. Rendez-vous à 14h30 pour ceux qui peuvent y participer. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne. Alléluia.